vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles. Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles écrite par votre serviteur, lue par des comédiens du cru et ponctuée de musique. Je vous la fais courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
Ouf. J'ai toujours aimé prendre des risques. Peut-être parce que mes parents étaient des fonctionnaires. Naître est le premier de tous les risques que j'ai pris. Plus exactement, j'ai effectué ma sortie 2 mois avant terme. Je ne pouvais pas faire moins. Disons plutôt que je n'ai jamais aimé le prévisible. Si l'on m'avait demandé mon avis, j'aurais refusé la couveuse. Je me suis retrouvée dans un bocal au milieu d'autres bocaux. Histoire de provoquer une certaine agitation, je m'amusais à imiter la mort subite du nourrisson. Un peu plus tard, quand je fus en mesure de saisir avec mes doigts, en cachette, je retirais mes couches. Il n'était pas dit que je serais une pisseuse. Peu de temps après, seule dans mon coin, j'appris à lire. Je pris le risque de comprendre. De comprendre quelle était ma place. En entrant à l'école, après avoir été un bébé, je devins un enfant. Une enfant. Pourtant, ma mère ne se lassait pas de me dire à tout propos « Ne fais pas l'enfant !» Que pouvais-je faire d'autre ? « Je vous passe les « Tiens-toi droite, ne mets pas les coudes sur la table, ne cours pas, dépêche-toi, fais attention, arrête de rire !» Je constatais rapidement que l'impératif était le temps préféré des adultes pour s'adresser aux enfants. Dans une journée, je n'avais que très peu de temps pour être une enfant, surtout dès le jour où je me mis à fréquenter l'école. Il me fallait réagir, trouver un moyen d'être moi-même, de lutter contre l'ordre établi, les convenances. J'étais une fille, c'était entendu. Je n'y pouvais rien. De toute façon, je n'avais rien contre. Assez rapidement, je partis à la découverte de mon corps et de tous les plaisirs qu'il pouvait me procurer. Mes doigts furent des explorateurs. Les sensations étaient multiples. Leur intensité variait. Le plaisir se blottissait dans les moindres replis. Je connus mon premier orgasme la nuit de mes 8 ans. Je ne savais pas que tel était le nom de ce qui venait de me mettre à genoux, avec cette impression que mon cœur allait s'arrêter. Sur le coup, se mélangèrent l'intensité du plaisir et la peur qu'elle provoqua. Comme si toute l'énergie que pouvait contenir mon corps avait été consumée en 1 seconde. Le front contre le sol, j'étais sans force, anéantie. Je laissai passer quelques jours avant d'oser recommencer, non sans une certaine appréhension. Avec l'expérience, je fis durer le plaisir. Je le laissai monter, puis redescendre. Monter, redescendre. Je finissais épuisée. J'aimais aussi ce moment où le désir me laissait un peu de répit. Par la suite, je façonnais mon corps selon mon humeur, mes envies. Cheveux rasés, multicolores, tatouages, piercings. Il n'était pas dans mes intentions de choquer, de provoquer. Ce corps m'appartenait et j'en faisais ce que j'en voulais. Cela me paraissait on ne peut plus naturel. Je voulais être moi et personne d'autre. Pour autant, je n'avais pas d'esprit de corps. Je ne me sentais pas solidaire des autres filles. Arrivée au lycée, je laissais le soin à d'autres de m'explorer. Garçons ou filles, cela n'avait aucune importance. Je les laissais se frayer un chemin, me défricher, atteindre l'inconnu. Assez rapidement, je fus affublée de qualificatifs qui avaient pour point commun de me décrire comme une fille facile. Il est vrai que j'étais une fille facile. Facile à faire jouir dès l'instant où l'on y mettait du sien. Et puis un jour, nous connûmes comme une rétractation, un repli sur soi. Planait la suspicion, la défiance, l'appréhension, la méfiance, parfois même la peur. Il fallait à nouveau faire attention. S'il fallait en croire la rumeur, les slogans, les pancartes, les hashtags, nous étions en danger. Nous, les femmes, nous étions en danger. Nous devions nous méfier. À mon grand étonnement, je connus la retenue. Je laissai la raison prendre le dessus. J'avais la sensation que mon désir se rétractait, se craquelait et finirait par être tout rabougri. Mes doigts ne semblaient même plus partants. Oui, je ressentais la peur de m'assécher, la peur de l'instant d'après. Je me confinais. Même si je marchais dans la rue, je regardais droit devant moi, au-delà, dans le vide, ailleurs. L'impression d'être nulle part. Peut-être la crainte de ne plus jamais avoir envie, de devenir une friche impénétrable, un matin, je descendis dans la rue, bien décidée. Bien décidée à renouer, à me dénouer, à retrouver le frisson. Le frisson d'une promesse. Il me fallait réamorcer. Je peux vous l'avouer, j'étais contractée. Saurais-je encore ? La dernière fois remontée à si longtemps. J'ai d'abord marché, tout en hésitant. Et je me suis lancée. J'ai souri. J'ai souri à un homme. À un homme que je ne connaissais pas. Un sourire qui mobilise tous les muscles du visage, qui laisse voir les dents. Il m'a regardé avec un soupçon d'étonnement. Il a souri à son tour, tout en me disant bonjour. Nous nous sommes croisés. Comme lui, je me suis retournée. Nous nous sourions encore.
À toi, ma fille, tous mes baisers mis de côté au coffre doux de ma tendresse. Ceux que par force j'ai gardés en secret depuis ma jeunesse. Ce bonheur qui n'est plus un songe, la vie exempte de chagrin. Douce et ronde comme une orange, du Louvre et plus un seul pépin. À toi, ma fille, la nostalgie que j'ai de toi au long des jours, au fil des heures, les hasards de tes premiers pas qui dans mes souvenirs demeurent, tes maladroits battements d'ailes, ton oiselet au bord du nid, mais patientez, mademoiselle, l'âge tendre n'est pas fini. À toi, ma fille, le temps qui fleurit ta beauté au miroir où tu te recueilles. Les jours que je n'ai pas comptés au calendrier qui s'effeuille. À moi, l'amour filial que l'homme reçoit mais ne peut retenir. À toi, ce chemin que l'on nomme sans le connaître, l'avenir. À toi, ma fille.
Yeah.
vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Repos. Pour la première fois, je participe à la réunion hebdomadaire des responsables de service. C'est une sorte de rituel, genre bilan et perspective. On ne se bouscule pas pour y aller, mais chacun se pousse du col pour se faire remarquer. Je suis la seule femme. Le tour de table n'en finit pas. Je regarde le ciel. Un bleu sans début ni fin, d'Yves Klein. Traversé de moineaux, mouvements saccadés. Certains se posent sur le rebord de la fenêtre. J'ai lu quelque part que leur cœur bat à plus de 300 ou 400 pulsations par minute, ce qui explique leur courte vie. Je crois qu'il serait bien pour nous de mourir de temps en temps, pendant une semaine ou deux, histoire de nous reposer en paix. Ça permettrait de reprendre goût à la vie, être enterré et se taire, enfin seul dans un linceul, loin des autres et de soi, disparaître et être introuvable, rayé de la surface de la terre. Faire une croix tout en sachant que l'on pourra l'effacer. Marmoréen dans l'ombre. Relief d'une sculpture parmi des sculptures. Quitter. Abandonner son corps à la froideur. Laisser son âme et son esprit vagabonder. J'imagine leur dialogue, leur débat sans fin. Quand j'y pense jusqu'à oublier, j'ai presque l'impression de sentir la liberté de la légèreté. Et je me dis, comme j'aimerais mourir, là, tout de suite, au milieu des cris des enfants qui se chamaillent, le matin quand mon mari me demande si j'ai repassé sa chemise, dans cette rame de métro où se pressent contre le mien des corps inconnus dont certains exhalent la moiteur des nuits de regret. Quand mon supérieur... Mais qu'a-t-il de supérieur ? Me convoque dans son bureau. La dernière fois, c'était pour un entretien d'évaluation. Il s'agit d'évaluer, de tout évaluer. Ma valeur. Quelle est ma valeur ? En principe, il doit me le dire à la fin de l'entretien. J'exagère. Tout n'est pas évalué. Ni ma fatigue, ni ma lassitude, ni mon envie de lui dire qu'il est con et que je me fous de son évaluation. En règle générale, je ne comprends pas les questions qu'il lit sur le formulaire qui s'intitule « Implication potentielle et objectif ». Si je lui demande des précisions, il me répond que l'on va passer à la question suivante, ce qui me permettra pendant ce temps-là de réfléchir à la précédente. Le plus souvent possible, je fais en sorte que mes réponses ressemblent à ces questions. Comment évoluez-vous dans votre collectif de proximité compte tenu des interactions inclusives ? L'inclusivité est par essence évolutive et polymorphe. De ce fait, il existe une certaine complexité à resituer les connexions endogènes qui sont pourtant essentielles à une dynamique participative. Je vois dans son regard un flottement. Il me dit « D'accord » et gribouille quelques mots sur le formulaire. Cette fois-ci, je me suis lancée. J'y pensais depuis longtemps. En fin d'entretien est abordé l'avenir. Enfin, un avenir de dimension restreinte. Dans le ciel de ma vie, cet avenir-là est large comme une fenêtre de tir. On a vite fait de la rater. Comme j'ai souvent tendance à hésiter, je lui ai donc fait part de mon souhait de proposer ma candidature pour un poste de responsable de service qui venait de se libérer. « Responsable ? » m'a-t-il répondu. « Vous pensez que ce sera compatible avec votre rôle de mère de famille ?»« Quel rôle ? Qui est responsable du casting ? »
Vous avez 3 enfants, me semble-t-il. Ils ont besoin de présence. Bon, je vais réfléchir. Et vous, Madame Lamble ? Madame Lamble ! Ah ! Je parie que le petit dernier fait ses dents. J'entends des rires. Oui, excusez-moi, j'ai envie de mourir.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Quand on peut rendre service. Ce midi, je ne peux pas. Je déjeune avec ta femme. Demain midi, parfait. Je t'enverrai le numéro de la chambre. Je te laisse, elle arrive. Je t'embrasse où tu veux. Je pose le portable sur la table. Agathe approche, elle regarde dans ma direction, elle ne sourit pas. Elle s'assoit et pose son sac au pied de la table. Elle retarde le moment de me regarder. Comme elle est là, elle a quelque chose à me dire. Une de ces choses que l'on entoure de silence avant de l'exprimer. Je vais la laisser entamer la conversation. Je n'aime pas forcer les choses. Soit nous parlons d'abord de choses et d'autres, soit elle passe directement du silence à la confession. Je voulais te parler de Nicolas. Là, c'est du direct. Tellement direct que je me demande si elle soupçonne quelque chose. Tu vois, j'aime toujours Nicolas, mais j'ai l'impression que notre couple se délite. Pour prendre une comparaison de l'air du temps, notre mariage est comme ces falaises que les marées font disparaître par pans entiers jusqu'à disparaître. Mon désir s'émousse. Nous faisons encore l'amour, mais j'ai l'impression que c'est pour nous rassurer, pour justifier le fait que nous vivons sous le même toit et dormons dans le même lit. Je vais finir par me dire que j'aime bien Nicolas. Mais j'ai besoin de le désirer. J'ai envie qu'il me fasse vibrer. J'ai envie de le regarder en imaginant des trucs. Ces trucs, c'est avec moi les fait Nicolas. Nous nous amusons à nous écrire des scénarios. Au début, nous ménagions la pudeur supposée de l'autre. Et puis avec le temps, la réserve, les tabous ont disparu. Nous sommes devenus deux corps entraînés dans une quête effrénée de jouissance. Je ne pense plus qu'à ça, tout en regardant Agathe, sans une once de honte, de culpabilité. Je pense à lui, à ce que nous ferons demain. Je ne veux pas laisser notre couple s'enfoncer lentement dans l'indifférence. Alors j'ai pensé à un truc. Tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vas peut-être trouver ça tordu, mais j'ai envie de retrouver de la passion, de l'impatience. Tu me dis franchement ce que tu en penses, mais tu ne me juges pas. Ce n'est pas facile à formuler, alors je compte sur ta bienveillance et tu mets de côté la morale. En règle générale, je n'aime pas donner mon avis, et encore moins quand c'est à propos de l'intimité d'un couple. Et encore moins quand je suis partie prenante. J'aimerais que mon portable vibre, que quelque chose vienne interrompre ce tête-à-tête. Avant qu'elle ne se lance, je lui dis que je dois aller aux toilettes. Je n'ai rien trouvé de mieux. Je sais que ce n'est que reculer pour mieux sauter. L'air de rien, je saisis mon portable. En revenant, je prends un air navré pour lui dire que le bureau vient de m'appeler et que je dois m'y rendre de toute urgence. Je devrais prendre des cours de comédie. Manifestement, elle ne me croit pas, mais fait comme si. Je t'en supplie, assieds-toi. Je n'en ai que pour quelques minutes. Voilà. Pour connaître à nouveau tous les plaisirs que procure la vie à deux, je me suis dit que le plus efficace, c'était d'avoir l'impression que l'autre va te quitter et que tu feras tout pour que ce ne soit pas le cas. Et je crois que j'ai trouvé la solution pour me retrouver dans cette situation. Il faut que Nicolas me trompe. Voilà. Il faut simplement que je trouve avec qui. Je ne savais pas quoi répondre. Son téléphone sonna, elle répondit. « Oui, chérie. » Au cas où, elle me chuchota. « C'est Nicolas ?»« Non, non, pas du tout. Hector allait justement partir. »
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore écouter ce mot que j'adore, votre voix au son caressant, qui le murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que répétez ces mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou, la vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin est vite apaisé, et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Je vous aime.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Effleuré. Au fil de l'autre, la vie se dénoue entre elle et lui. Lendemain de traverse, dans l'envers des temples d'encore se reflète son parfum. La lumière peine à franchir la limite fixée par la fenêtre. Déterminer l'heure dans ces conditions demeure aléatoire. Le corps disséminé dans la douceur digitale des draps, il hésite à se lever. Cette hésitation est sur le point d'altérer son égarement cérébral. Cette sensation d'entre deux eaux, ce relâchement de chaque muscle, comme si le corps allait se répandre. Certains matins, il en arrivait à croire à sa disparition, ne parvenant à distinguer aucun membre. Comme un esprit abandonné, peut-être une idée de la mort. Alors il ne bougeait pas. Pour prolonger la légèreté, la présence s'évanouit. À l'abri de ses paupières, il se souvenait du soulèvement des dévastations, du ruissellement des fouilles, des arrachements de l'impatience. Son corps alors reprenait vie, il le sentait. Il aimait ainsi se sentir revivre, prêt à tout recommencer. Il finissait par s'étirer dans les largeurs du lit. Prêt à se couler dans le jour, à happer les aspérités de ses deux pieds, il repoussait la couette et sentait l'air vif l'extraire de la quiétude. Il lui arrivait de s'en recouvrir à nouveau pour, pendant quelques secondes, s'enrouler dans la tiédeur. Ce matin-là, il jette un œil au ciel. Le soleil ne parvient pas à se dépêtrer de la brume. L'épaisseur absorbe ses rayons. Comme des traces de la fatigue de la veille, des vêtements traînent sur le parquet. Il la rejoint dans l'égarement, caressé par la couleur de la brume. La cour s'écoule le long du mur. Sa couleur s'écorche près de son revers. Il se souvient de cette fleur qui s'offrit à la lumière, loin des regards. Elle se balançait dans le vent. Elle provoquait l'attirance des errants scellés. Sa présence solitaire suffisait avant sa disparition dans la nuit. Ce si peu de vie lui rappelait sa fragilité. À peine le temps passait-il dans un bruissement. Les promesses et les serments du cœur désertaient leurs reflets. Les souvenirs écrasent les matins des saisons sans raison. Les pensées s'entrelacent de fatigue. Elles cherchent leurs mots. Ailleurs. Ce matin, il aurait voulu être ailleurs, là où il n'est jamais, dans le creux de ses bras, dans l'attirance de son sourire, il aurait aimé. Il aurait aimé être ailleurs, loin, loin d'ici, là où elle était. Elle est partie si tôt, il était trop tard. Trop tard quand de ses mains il l'a cherchée. Quand est-il trop tard? Pourquoi serait-il trop tard? Pourtant il savait. Il savait qu'il rencontrerait ce vide tiède, comme les ruines érodées de retournement. Pourtant, il cherchait. Il retournait dans la nuit, là où se trouvaient les bruissements. Il remontait le temps. Il remontait le long de son corps, jusqu'au Big Bang. Il s'approchait jusqu'à croire qu'elle était là, qu'elle était toujours là. Il croyait même l'entendre se tendre. L'entendre se fendre, mais elle était ailleurs.
En ce joli mois de mars, Les nouvelles que vous avez eu le plaisir d'écouter vous ont été interprétées respectivement par Agnès Dyck, Maria Vitali, Pierre Chedville et Denis Lucas. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Habillage sonore, Jean Clarksville. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne nouvelle, bonne nouvelle.